suis économiste de l'environnement.
J'ai travaillé avec Ludivine Edlois.
J'appartiens plus à l'UMR GRED, j'appartiens à l'UMR PALOC, mais mon cœur est resté chez GRED, ça n'a pas de problème. J'ai travaillé avec Ludivine Edlois sur un article qui est paru dans le Journal of Peasant Studies. J'en ai apporté quelques exemplaires. Nous étions toutes les deux en affectation au Brésil et nous avons travaillé dans plusieurs groupes de recherche que je vais vous présenter. Alors, pour faire écho à la présentation, la sélectivité que nous allons étudier, ça va être une sélectivité locale, hein, régionale, contrairement à Marie qui va présenter ça à un niveau plus large. Alors, c'est un travail collectif qui a été réalisé à l'Université de Brasilia. Je vais les présenter après, en fait. Alors, je vous dis tout de suite ce qu'on a voulu faire, hein, comme ça c'est plus simple, enfin, ce qu'on a trouvé en tout cas, c'est que l'expansion du soja, loin d'avoir été contenue par les politiques environnementales, a été encouragée par celle-ci et l'a légitimée, et dans le même temps, on disqualifiait les systèmes productifs traditionnels. Hein. Donc on travaille effectivement sur ces politiques de sélection qui ont repoussé l'agriculture familiale aux marges de l'exploitation du soja. Donc c'est une recherche qui a été menée en partenariat avec trois projets. Le projet RESBIO qui était mené avec l'Institut des études environnementales de l'Université de Goiás. Le projet ENGOV qui a été mené au Centre de développement soutenable de l'Université de Brasilia. Et un projet avec la coopération allemande et avec l'Institut de conservation pour la biodiversité brésilien sur la gestion du feu dans le Cerrado. Alors, je vais vous présenter... Alors, peut-être pour ceux qui ne voient pas très bien où c'est dans le Brésil, j'ai une carte peut-être plus... Voilà. Donc, vous voyez le Cerrado et cette partie du Brésil. Ce qu'on appelle le Cerrado, ce sont les savanes centrales du Brésil. En fait, c'est... En gros, c'est ce qui reste du Brésil quand on a enlevé l'Amazonie, le Nord et les Pampas du Sud. Enfin, c'est une zone qui a été découverte assez tard. Qui a une unité dont on va reparler. Donc nous avons eu trois lieux d'études dans la réserve de développement durable dans le Minas Gerais ici, dans la APA, c'est une aire de protection environnementale, et dans une station écologique plus haut. Donc ce qui est quadrillé, ce sont des zones de protection intégrale, l'usage durable, hein, c'est-à-dire ce qu'on permet aux populations, c'est comme ça, et il y a quelques terres indigènes plus haut. Ce qui est important de voir, c'est que là on est dans un plateau en fait, et un plateau donc surélevé, et là on est plutôt dans une zone plus basse, mais ça je vais y revenir. Alors, nous avons interviewé une soixantaine de familles d'agriculteurs, plusieurs gestionnaires et plusieurs protecteurs et des producteurs de soja. L'expansion du soja est extrêmement importante au Brésil. On estime que les grains ont augmenté de 40% sur ces 6 dernières années. C'est énorme. On en est à 30 millions d'hectares plantés, environ 88 milliards de tonnes. Hein. Ça fait beaucoup, 60 millions d'hectares. Hein. On est au Brésil, c'est très grand. Hein. 60 millions d'hectares. Et là, vous voyez sur la fiche, ça s'additionne. Hein. Les petits points, donc, c'est la production des grains dans le Cerrado. Et la ligne continue, c'est la production dans le sud. Donc, vous voyez que le Cerrado est en train de se développer. Il se développe essentiellement dans une région qu'on appelle le Mapitoba. Pourquoi ? Parce que c'est la jonction du Maranhão, du Piauí, du Tocantins et de la Bahia. Donc vous voyez, ce sont ces gros points rouges où il y a vraiment une croissance énorme de la construction du soja. Toujours là pour vous repérer, là on est donc ici. Hein. Ça c'est Brasilia. Voilà. Alors évidemment, cette croissance se paye sur le plan environnemental, donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Alors moi j'aime bien dire qu'il n'y a pas que l'Amazonie dans la vie et qu'il n'y a pas que l'Amazonie dans le Brésil. Hein. C'est-à-dire qu'en Amazonie, on peut considérer qu'il y a 45% d'aires protégées de différentes formes, hein, que ce soit des aires de développement durable, des régions d'extractivisme, des parcs régionaux, de la conservation stricte, et surtout beaucoup de terres indigènes. En Amazonie, on a à peu près 25% de terres indigènes. Bon. Et finalement, actuellement, on peut considérer qu'il y a moins de 20% de la forêt amazonienne qui a été déforestée. Là, on est sur 4 millions de kilomètres carrés. Le CERAD est beaucoup plus, fait exactement la moitié, 2 millions de kilomètres carrés. Il est déjà déforesté, là il est marqué 44%, moi je crois qu'on est déjà à 50%, et il ne comporte que 10% d'aires protégées. Le fait très sensible, c'est de montrer qu'actuellement, la déforestation, ce qu'on appelle la déforestation du CERAD, a dépassé dans les années 2010, a dépassé celle de l'Amazonie. On est donc dans une situation assez difficile. Alors, quelles ont été les politiques environnementales ? Comme je vous disais, le CERAD a été découvert comme biome relativement tard, parce que c'était un peu ce qui restait, il n'avait pas vraiment cette unité, puisque ces zones de savane vont d'une savane très arborée à une savane quasiment désertique. Donc et comme elle est à la frontière de l'Amazonie, de la région nord, elle est dans une zone de contact qui fait que la biodiversité est particulièrement riche. En 2000, elle a été déclarée par la Global Ecology, elle a été déclarée un hotspot de biodiversité. En 2005, il y a le premier plan c'est le CERAD Sustentable. Et enfin, sur la scène internationale, le CERAD va apparaître quand le président Lula va s'engager à Copenhague sur des plans de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Et dans le cadre de ce plan national sur le changement climatique, il va annoncer une réduction, certes, de 80% en Amazonie sur la base du business as usual sur 2020. Hein, donc 80% de déforestation, en moins de déforestation, et 40% des émissions de gaz à effet de serre dans le CERAD. Et là, on se rend compte que le CERAD est déjà bien déforesté et qu'il va falloir réduire ses émissions. En 2010, donc, on a le plan PPCERAD, un plan d'action et de contrôle de la déforestation et des feux dans le CERAD, donc beaucoup plus tard que pour l'Amazonie. Dans toutes ces politiques environnementales, on va parler biodiversité, hotspot, et on va parler très peu de la population traditionnelle. Contrairement à l'Amazonie, où bien sûr, on met toujours en avant les Indiens, les populations amérindiennes. Là, j'en profite aussi pour dire une petite vérité qu'on oublie, c'est que donc je vous ai parlé de 25% de l'Amazonie qui est en réserve indigène et qui accueille, disons, 50% des Amérindiens brésiliens. Dans le reste du Brésil, donc il reste 50% d'Indiens, mais là, cette fois-ci, sur moins de 5% de la superficie. Donc les problèmes de conservation de ces terres indigènes se situent vraiment dans le sud du pays. Alors, il y a plusieurs politiques qui ont été menées. Il y a deux grandes politiques environnementales qui vont être menées, qui vont atteindre le CERAD. C'est la politique des aires protégées. Donc, vous voyez une évolution des aires protégées. Au départ, on va dire que ce qui est plus important, donc, ce sont les terres indigènes qui sont créées de plus en plus. Et puis, les unités de conservation durable vont apparaître après le sommet de la Terre, hein, après 92. C'est lié à la lutte de Chico Mendes pour la lutte des Seringueiros. Donc on reconnaît que les populations participent à la conservation. Parallèlement, ça veut dire aussi que les conditions de conservation vont être de plus en plus lâches. Hein. Et on voit qu'à partir de 2000, ce sont essentiellement des unités de conservation d'usage durable qui sont créées. La deuxième politique importante, c'est le code forestier. Le code forestier au Brésil, je pense que Ludivine vous en a déjà parlé, c'est quelque chose de très particulier. Le Brésil est sans doute le rare pays du monde à, dès 1965, avoir instauré une loi qui concerne les propriétaires privés. Au Brésil, les propriétaires privés ne peuvent pas mettre en valeur, enfin défricher, on va dire, plus de 20% de leur superficie s'ils sont en Amazonie, et plus de 80 s'ils sont dans le CERAD. Donc je répète, ça veut dire qu'en Amazonie, il faut que le propriétaire privé conserve 80% de sa propriété en végétation native, naturelle. Dans le CERAD, déjà, c'est beaucoup moins, il n'est censé conserver que 20%. Ce code forestier détermine deux types de zones de conservation, ce qu'on appelle les réserves légales. Les réserves légales, donc, c'est cette zone de végétation native qu'il faut conserver. Donc, il faut conserver 20 réserves légales. Et il faut également conserver ce qu'on appelle les APP, les aires de protection environnementale, c'est-à-dire les zones fragiles, le long des rivières, en sommet de crête, les sources, etc. La nouvelle loi du code forestier, le code forestier a été revu puisque très dernièrement, 2014, puisque la ministre de l'Environnement elle-même décrétait que 90% des propriétaires privés étaient dans l'illégalité vis-à-vis de ce code forestier, donc il fallait peut-être corriger le code forestier. Donc a été lancée une grande campagne de cadastre environnemental, hein, environnement, le CRA. Donc c'est un cadastre, chaque propriétaire privé doit présenter donc un plan de sa propriété. Alors c'est très très technique, hein. Il est possible d'aller chercher sur internet des visions satellites de sa propriété et à partir de ça de travailler, de montrer quelle est la réserve légale et quelles sont les aires de propriété permanente. Alors ce qui est intéressant, et ça rejoint un peu ce qui a été discuté tout à l'heure là, c'est que la mise en place de ce code forestier va mobiliser à la fois des paiements pour services environnementaux. On va aider les propriétaires qui sont dans l'illégalité, donc la majorité, à restaurer les aires de réserve légale ou d'APP qui ont été détruites. Donc on va les aider, on va payer pour des services environnementaux. On va demander aussi aux propriétaires de compenser, c'est-à-dire le grand propriétaire de soja, qui a déjà tout détruit, on voit mal comment on va pouvoir lui demander de recréer du CERAD. Donc, lui a la possibilité de faire des compensations, c'est-à-dire de trouver... alors, au début, c'était dans le même bassin versant, et puis maintenant, ça va sans doute être beaucoup plus large au niveau du pays. Donc, de compenser, c'est-à-dire de pouvoir acheter une servitude environnementale d'un autre propriétaire. Il va aussi y avoir un système de compensation par l'offre, c'est-à-dire qu'on encourage des bourses de réserves environnementales, c'est-à-dire c'est un système de bourses. Actuellement, il y a plusieurs bourses, il y a la BVRIO et la Biofilica qui sont en train d'organiser ces systèmes de bourses, c'est-à-dire que si vous avez une partie de votre réserve légale en plus, vous pouvez l'offrir à ce système de bourses et voir si on va vous l'acheter. Voilà, on en est là, mais comme les décrets d'application ne sont pas encore sortis, on est dans une situation encore tout à fait transitoire. Alors, je n'ai pas pu m'en empêcher, parce qu'en ce moment, je suis très, très obsédée par la COP21, et je trouve que ça a expliqué bien, de vous présenter la contribution brésilienne à la COP21, parce qu'on va bien comprendre le problème du CERAD. Donc, le Brésil s'est engagé, cette fois-ci sérieusement, pas sur la base d'un scénario business as usual, mais bien avec une base 2005. Le Brésil s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 37% en 2025, de 43% en 2030. Ce n'est pas ridicule, hein, l'Union européenne a proposé 40%. Hein. Alors, ce qui a fait couler beaucoup d'encre auprès des ONG, c'est qu'il y a deux engagements. Il y a un objectif de zéro déforestation illégale et zéro émission nette de déforestation légale en 2030. Alors, je vais vous expliquer pourquoi c'est un peu bizarre. Et puis, cette idée de restaurer et de reforester 12 millions d'hectares en 2030. Alors, on va décrypter ce que ça veut dire. Bon, zéro déforestation illégale, on comprend bien. Hein. Zéro émission nette de déforestation légale, déjà on dit, tiens, il va y avoir tant de déforestation, c'est que ça, comment expliquer ça? Bon. Et puis restaurer et reforester les 12 millions d'hectares, on va retrouver les 12 millions d'hectares, ça c'est la fourchette basse du code forestier, c'est-à-dire qu'il fallait de toute façon que les propriétaires qui avaient déjà trop déforesté doivent compenser. Hein. Donc on retrouve nos 12 millions d'hectares. Alors, revenons à nos zéro émission nette de déforestation légale en 2030. Nicolas Hulot est parti en bagarre. Ah, on va encore déforester l'Amazonie. Pouf, il ne s'agit pas du tout de l'Amazonie. Il s'agit d'un rapport de force entre la ministre de l'Agriculture, Katia Abreu, qui est, on va dire, assez proche de la présidente, qui assiste, évidemment, qui représente la défense des grands fazendeiros des Hauts, des planteurs de soja, des planteurs de canne à sucre, et qui milite pour qu'on puisse défricher le CERAD au maximum de la légalité, c'est-à-dire jusqu'au 80% autorisé. Voilà. Donc, on peut lire cette contribution brésilienne à la COP21 comme une sorte d'autorisation pour continuer la déforestation du CERAD. Par ailleurs, donc, on peut dire que le code forestier a légalisé cette déforestation grâce à cette mise en place de compensation par l'offre. Alors, maintenant que je vous ai mis le cadre, on arrive aux politiques de sélection. Alors, les politiques de sélection, elles ont déjà été... Puisque Ludivine a déjà participé, on retrouve un peu ce qu'on avait voulu faire. C'est-à-dire, celles qu'on a surtout étudiées dans le cadre du CERAD, ce sont les politiques de sélection spatiale, une sélection de problèmes environnementaux et les sélections de l'information. Hein, on a surtout insisté là-dessus. Et nous, on dit que la sélection socio-environnementale, c'est une conséquence, en fait, de ces trois types de sélection. C'est-à-dire que d'emblée, on ne veut pas faire de la sélection socio-environnementale. Alors, ça va être le choix d'implanter des aires protégées. Bon. Implanter des aires protégées, c'est bien sûr vouloir conserver la biodiversité remarquable, mais c'est également autoriser ou restreindre des activités. Alors, dans la région que nous avons étudiée, on va voir déjà, on a déjà vu tout à l'heure que, alors qu'il y a il y a environ 50% de l'Amazonie qui est sous protection, des unités de conservation, plus les terres indigènes, on arrive à peu près à 50%. C'est très faible dans le CERAD, donc on a moins de 4% de terres indigènes et on a moins de 8% d'unités de conservation. Il y a plusieurs explications pour ça. L'explication, c'est que le CERAD, c'était peu exotique hein, par rapport à l'Amazonie, donc ça n'intéressait pas grand monde. Il s'est révélé assez rapidement propre à l'agriculture par une qualité de sol et des sols plats qui permettaient la mécanisation. Mais surtout, par l'histoire, il a été constitué principalement de propriétés privées. C'est-à-dire que maintenant, s'il faut créer des aires protégées dans le CERAD, on se heurte au fait qu'il va falloir désapproprier des propriétaires et donc il faut les indemniser. Et puis aussi, il y a eu ce problème, pourquoi moins d'aires protégées ? Parce que comme toute l'attention internationale et nationale était vraiment focalisée sur l'Amazonie, l'idée était, il y a un jeu de bascule, c'est-à-dire qu'il va y avoir un moratoire du soja. Les grandes entreprises de soja, des producteurs vont dire « Ah ben non, on ne va plus acheter du soja s'il vient de terres déforestées illégalement en Amazonie. La même chose pour les producteurs de bovins. Non, on achètera les abattoirs, on ne va pas acheter de viande qui proviendrait d'Amazonie. Sous la pression également des ONG, il y a eu un zonage qui dit « Ah ben non, en Amazonie, on ne va pas faire de canne à sucre. » Donc, bien sûr, vous vous rendez compte que le CERAD, avec ce jeu de bascule, va être le premier indiqué pour recevoir l'expansion de la canne à sucre pour l'éthanol. Avec la canne à sucre, au Brésil, c'est formidable. On fait tout. On fait le sucre, on fait l'éthanol carburant. Vous savez que l'éthanol carburant... Donc, on roule à l'éthanol, mais quand on roule à l'essence, on a déjà 25% d'éthanol dans son essence. Et puis, surtout, de la cogénération d'électricité. C'est-à-dire, ces usines de canne produisent de l'électricité rurale dans des circuits régionaux. Donc, soja, canne, donc, on est déjà... Donc, il y a deux fois moins d'air protégé dans les municipes de grande expansion du soja ont été créés. Le soja, donc, on a vu, c'était sur les chapadons, c'est-à-dire ces planos mécanisables. On va remettre la carte tout à l'heure. Et alors que l'agriculture traditionnelle se situe plus en bas, dans les bas-fonds. On va avoir des superpositions de ces nouvelles aires protégées, donc les aires de protection environnementale, où il y a peu de contraintes. Et on voit que souvent, elles ont été créées parce qu'elles permettent des revenus. C'est-à-dire qu'elles permettent aux municipes de toucher un impôt qui est un impôt sur la circulation des marchandises. Donc, elle touche un impôt, elles perçoivent donc sur les transferts de la part du gouvernement. Plus on fait d'air protégé, avec le label air protégé, plus on peut recevoir des nouveaux. Mais il n'y a pas de contrainte. C'est-à-dire que tant que ces aires de protection environnementale n'ont pas de plan de gestion, en fait, on peut faire ce qu'on veut. Et c'est le code forestier qui s'applique. Donc, on peut défricher jusqu'à 80%. C'est-à-dire que vous êtes dans une aire de protection environnementale, vous pouvez bien sûr rencontrer du soja et de la canne à sucre. Et puis, en fait, avec le code forestier, il va y avoir une recherche de zones de compensation dans ces aires protégées. C'est-à-dire qu'il va bien falloir trouver des endroits où on conserve l'environnement. Jusqu'à présent, il n'y avait pas trop de conflits avant la création des aires protégées. C'est-à-dire que avant l'arrivée du soja, voilà, donc c'est par là et par là, donc là on est sur un plateau. Hein. Avant l'arrivée du soja, il y avait une coexistence tout à fait, on va dire, paisible entre les petites traditions familiales qui allaient sur les plateaux pour la chasse, la pêche, pour l'extractivisme et qui cultivaient surtout dans les zones humides. Bon. Petit à petit, ils vont se retrouver chassés par l'extension du soja et coincés par la création des aires protégées. Alors, ces politiques sélectives, j'ai pas mon dessin. Hop, le voilà. Alors, la première politique sélective, ça a été donc ce choix de localisation des aires protégées, favorisant donc l'expansion du soja, c'est-à-dire les zones non mécanisables. Et la deuxième politique de sélection, ça aurait été d'en faire moins qu'en Amazonie. Mais on va revenir là-dessus. L'exemple amazonien a beaucoup contribué au problème que rencontre actuellement le CERAD. Donc, deuxième problème d'environnement, les problèmes d'environnement mis en enjeu, alors là, c'est le feu. Le feu, c'est une obsession de lutte contre le feu. Donc, il y a cet exemple de l'Amazonie en flammes. Ça, c'est, hein. Il y a un discours qui est repris par les ONG, par les universitaires, par les scientifiques. Il y a une condamnation unanime de la bâtie brûlie, hein, qui est pourtant pratiquée par la majorité de la population. Condamnation aussi dans le CERAD de la mise à feu des savanes, qui est quand même une pratique qui se fait dans le monde entier pour régénérer justement les pâturages et pour conserver l'état de ces savanes. Mais le fait qu'il y ait du feu a vraiment été quelque chose de très très important. Et bien sûr, le développement des questions de changement climatique avec les émissions de gaz à effet de serre et l'émission de CO2 ont vraiment encore rajouté une couche sur cette utilisation du feu. Or, justement, les populations, elles ont tendance à cultiver dans ces APP, c'est-à-dire dans des zones qui sont... dont on est dans le CERAD, donc il y a des périodes de sécheresse importantes. Dans les aires d'APP, c'est-à-dire d'aires de protection permanente, le long des fleuves, le long des rivières, il y a donc des zones fertiles et qui sont cultivables toute l'année. Donc la petite paysannerie s'organise avec cette mise en valeur de ces zones qui sont maintenant interdites à l'exploitation. Et parallèlement, il y a une grande difficulté pour obtenir des autorisations de mise à feu pour régénérer les pâturages. Donc le feu est devenu quelque chose, là il y a un petit dessin, c'est un crime. Hein. Mettre le feu sans autorisation, c'est un crime que l'on doit dénoncer. C'est quelque chose de très très important. Et bien sûr, ce feu, ce sont les petits paysans qui utilisent le feu, ce ne sont pas les planteurs de soja. La troisième politique sélective, c'est celle des systèmes d'information. Donc le Brésil possède une couverture satellitaire. D'ailleurs, mon ami Hélénéide pourra vous en parler, qui est spécialiste de la télédétection, possède un système de télédétection de feu extrêmement élaboré. Donc ça, c'est l'acquis de l'Amazonie, hein. On est dans des situations où vous avez, maintenant, on peut avoir, il y a des satellites qui tournent tout le temps, hein. On peut avoir toutes les 3 heures une image de, qui va jusqu'à 30 mètres sur 1 mètre. Et ça, vous pouvez le recevoir sur votre téléphone portable, c'est-à-dire vous vous inscrivez, hein, voilà, moi je veux vérifier ce que fait le voisin d'à côté, là, vous regardez avec votre GPS, et vous êtes prévenu sur votre téléphone portable s'il y a un début de feu. C'est quelque chose d'absolument formidable. Et le but, c'est de dénoncer, bien sûr. Alors, bien sûr, on participe tous à la lutte contre le feu, mais le but aussi, c'est quand même de la dénonciation, puisque sur le site, on dit que le feu est dû à la paresse et à l'inconséquence des agriculteurs. Voilà. Donc, la télédétection, se focalisant avec des outils techniques extraordinaires, hein, internationaux, c'est focalisé donc sur ce feu, ces mises à feu. Si vous voulez avoir des informations sur la situation de l'eau, sur la situation de l'érosion, sur la pollution, eh ben là, vous n'aurez pas grand-chose. C'est-à-dire, autant on est averti en temps réel sur son téléphone portable sur la mise à feu du voisin, autant aucune dénonciation ne va être faite pour l'irrigation des champs de soja par pivot central. On ne va pas parler de l'érosion des sols. Et on ne va pas parler des intrants, de ce qu'on appelle les agrotoxiques au Brésil, c'est-à-dire les pesticides et les herbicides. Alors, bien sûr, ces trois types de politiques sélectives, donc l'information, le choix des aires protégées et le choix du programme du problème feu, vont porter un coût extrêmement important au système de production de l'agriculture familiale. Ça va porter, bien sûr, un coût fatal à l'agriculture d'abatis-poulies, à l'utilisation des aires de protection permanente le long des fleuves, de ce qu'on appelle les veredas, là-bas, on va voir des dessins. Aussi un coût important au petit élevage extensif sur prairies naturelles que l'on régénérait grâce au feu. Et puis aussi un coût assez important sur l'extractivisme, parce que l'extractivisme se présente comme quelque chose de non prédateur. Mais il a été décidé qu'on ne pouvait plus couper de bois, qu'on ne pouvait plus chasser, qu'on ne pouvait plus pêcher. Enfin, il va y avoir toute une série d'interdictions sur le mode extractivisme au sens large. Alors, Ludivine nous a fait des très jolis dessins. Hein, attendez, ça marche comme ça. Voilà. Je ne sais pas si ça se voit bien. Donc vous allez voir le petit élevage extensif et vous voyez ces palmiers donc sont significatifs de la présence donc, de la rivière, donc de l'aire de protection permanente, des veredas. On voit, donc on est dans le Serra, donc il y a cette saison sèche et c'est bien dans cette saison sèche qu'on va mettre le feu pour régénérer et pour cultiver. Voilà. Voilà, alors évidemment, voilà, ça c'est insupportable. Ça, si ça sort dans la presse, si ce genre de photos sortent, c'est extrêmement grave. Ce qui veut dire aussi que les populations doivent mettre le feu de façon discrète. C'est un peu difficile. Donc voilà à quoi ressemble un peu un champ de petite agriculture. Donc on a déjà cher qu'une douzaine d'années, un champ qui est productif. Et tout ça, normalement, c'est quelque chose qui est interdit puisque c'est dans cette zone de protection permanente. On trouve aussi la généralisation d'élevage, alors sous l'élevage qui se ferait sous les arbres. Donc de plus en plus, on va trouver des possibilités de pâturage dans des zones arborées. Voilà. Puisqu'on n'a plus le droit de faire de pâturage. Alors, les solutions proposées sont un peu navrantes. On va retrouver le mythe de la double conservation, c'est-à-dire il faut conserver les peuples, il faut conserver, pour conserver la biodiversité, conservons les riches traditions des peuples. Vous savez, cette boîte-là, cette boîte sur les populations traditionnelles et sur les savoirs locaux, là, on va encore y avoir droit là, pour la COP21, ça va être terrible. C'est-à-dire qu'il faut rentrer dans ce discours des riches savoirs locaux. Proposer de l'extractivisme, mais pas n'importe quel extractivisme. Hein. Ça va être des plantes très spéciales. Alors, c'est assez amusant. Il y a une plante qui est très développée, qui est le barou. Le barou, on donnait ça aux vaches il y a 50 ans. Bon, maintenant, c'est devenu une sorte de petite noix qu'on mange. C'est très chic à l'apéritif. Il va y avoir de l'artisanat. Les femmes vont faire des balais. Mais attention, elles n'auront pas le droit de faire des balais avec tel palmier. Il faudra qu'elles fassent des balais avec un autre palmier. Bon. Et on va créer cette idée de peuple et de produits du cérate. C'est-à-dire, dans le même temps, où on ne reconnaît pas les systèmes de production des populations, on donne cet habit, on recrée, on choisit, là aussi il y a une sélection des savoirs locaux et il y a une solution, il y a une nouvelle sélection de ce qui doit être fait. Alors, ça va, je me journal est temps. Alors, les implications, donc, je reprends le cours. Hein. Donc, ces implications vont être différentes selon les groupes sociaux. C'est-à-dire, ce processus de sélectivité, de sélection, va avoir évidemment des effets différents pour la petite agriculture familiale et pour les grands fazendeiros. Alors, pour l'agriculture familiale, d'après nos enquêtes, eh bien, on s'aperçoit que y a presque plus de gens qui vivent à 100% de l'agriculture. Il y a un renforcement de l'exode rural. On s'aperçoit que la majorité des gens, bon là évidemment ce ne sont pas des très grosses statistiques, mais là ce sont vraiment des questionnaires qui ont été tout à fait renseignés. Mais on va trouver donc cette généralisation. Les revenus vont venir ailleurs que l'agriculture. Ils vont venir d'où ? Ils vont venir de la politique de transferts sociaux du gouvernement Lula qui a été continuée par Dilma. Vous savez que le Brésil a réussi à sortir 40 millions de personnes de la pauvreté, ce qui est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, par une politique de transferts sociaux. Toute personne... Alors, toute personne gagnant un salaire minimum pouvait demander une bourse famille. Cette bourse famille était versée aux femmes, parce que les femmes, normalement, ne vont pas le boire au café tout de suite. Donc, c'était versé aux femmes et avec l'obligation de vacciner les enfants et d'envoyer les enfants à l'école. Cette politique, qui a coûté très très cher et qui coûte toujours très cher, a permis, donc, je répète, de sortir 50 millions de personnes de la pauvreté, mais ça veut dire aussi que ça a donné, donc diversifié les revenus. Parallèlement, le développement du Brésil a permis de créer beaucoup d'emplois urbains, des emplois de fonctionnaires, mais également toute l'économie urbaine. Donc on voit bien une perte des revenus et avec l'arrivée du soja et de la canne, il y a eu la location de terres, c'est-à-dire les grands fazendeiros n'achètent pas forcément les terres, il y a un jeu de location, hein, c'est-à-dire que il est plus facile de louer la terre. Actuellement dans le Cerrado, vous ne trouverez plus de producteurs de riz, par exemple. Un petit paysan qui fait son riz, ça n'existe pratiquement plus. Tout le monde va acheter du riz au supermarché. Vous voyez, il y a aussi une modification du profil de la petite paysannerie assez rapidement. Alors évidemment, pour les planteurs de soja, c'est tout à fait différent. Ils ne dépendent pas du feu ni de la déforestation et ils n'ont pas à gérer les APP. Pour eux, ils ont des facilités d'obtention d'autorisation pour l'irrigation. Et puis, il y a cette possibilité de recomposition de leurs réserves légales par compensation. C'est-à-dire que maintenant, s'ils ont trop défriché, ils peuvent acheter des quotas de réserves environnementales, donc c'est-à-dire ces compensations par l'offre, hein, avoir des servitudes environnementales par le nouveau code forestier. Je voulais vous parler d'autre chose. C'est en conclusion. Voilà. Je vais terminer. Alors, la question, c'est quel futur pour les populations paysannes ? Alors, paysannes traditionnelles, vous voyez que c'est un peu difficile de les qualifier. Généralement, on n'a pas voulu les qualifier en tant qu'identité politique. Là, on les identifie en tant que relation assez longue à la terre et mode de production. Vous avez vu slash and burn, petit élevage extensif et peu d'intrants de façon générale. Alors, quel est le futur ? Est-ce que ça va être vraiment des niches de marché, cette folklorisation qu'on propose au peuple du Cerrado, sur le modèle de l'Amazonie ? Il est vrai que dernièrement, vous savez que le Brésil est un des plus grands, je crois avec la France d'ailleurs, utilisateurs de pesticides, d'herbicides, etc. Donc, il y a un mouvement d'agriculture biologique. Qui est en train de se développer. Donc, à l'agroécologie, enfin, vraiment, il faudrait viser des niches de marché. L'abandon de l'agriculture, ce n'est pas propre au Cerrado. Hein, c'est propre un peu, je pense, c'est un phénomène qui est propre tout le Brésil. Je crois que c'est quelque chose qui se fait au niveau international. Hein. Donc, du fait de la diversification des revenus, des bourses, des locations de terres. Il y a quelque chose d'intéressant à souligner. Moi, ça me plaît bien. Parce que quand j'ai commencé à travailler sur le Brésil, la question, c'était la lutte pour la terre. C'était les paysans sans terre. Hein. C'est-à-dire l'inclusion dans la citoyenneté, ça passait par la lutte pour la terre. Maintenant, apparemment, l'inclusion et la citoyenneté, ça s'obtient par les transferts sociaux et ça s'obtient par la lutte pour les droits, hein, pour les droits sociaux. Voilà. Bon, là, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant. Il y a vraiment eu un basculement. Bon, pour être plus positif, quel pourrait être le futur? D'abord, renforcer les droits fonciers, parce que pour la plupart des populations, il n'y a pas de droits fonciers. Ça pourrait être faire des accords de gestion, et ça, on commence à en voir. C'est-à-dire que lorsqu'il y a la possibilité de créer des associations, alors je le répète, contrairement à l'Amazonie, où très rapidement la communauté internationale a soutenu les organisations amérindiennes, se sont battues avec eux, et maintenant les organisations amérindiennes ont d'ailleurs une certaine indépendance dans leurs revendications, on n'observe pas du tout ça encore dans le CERAD. Donc, parce que ça, ils ne sont pas assez exotiques, je pense. En tout cas, la communauté internationale s'intéresse assez peu à ces populations qui sont elles-mêmes assez peu organisées. Mais on voit ici et là des accords de gestion, de la participation communautaire. Par exemple, ce sera la photo finale, des reconnaissances de pratiques de mise à feu. Une région qui s'appelle le Jalapon, on cultive le capim dorado, c'est-à-dire c'est une jolie herbe dorée. Dans laquelle vous devez certainement avoir vu ça. On fait des bijoux, on fait des petites boîtes, ça brille, c'est très joli. Mais pour obtenir ces fibres, il faut mettre le feu. Il faut mettre le feu à des périodes précises et justement, c'est interdit. Voilà. Mais il y a eu un accord de gestion entre une association de Jalapon et l'ICM Bio, c'est-à-dire l'Institut de conservation de la biodiversité. Et puis, alors ça, c'est un grand mot, insertion dans les réseaux technico-scientifiques, bon, c'est un grand mot, mais le CERAD est actuellement en train d'être redécouvert en tant que richesse d'adaptation. Donc, j'ai essayé de vous le dire parce qu'il est donc à la frontière de plusieurs biomes très différents, parce que c'est une région où il y a des périodes de sécheresse très fortes, il y a donc les arbres ont beaucoup de racines. C'est pour ça qu'on dit que le CERAD est une Amazonie à l'envers. C'est-à-dire que les arbres amazoniens, ils n'ont pas beaucoup de racines, mais ils ont une grande couronne. Mais si on comptait les racines des arbres du CERAD, peut-être qu'au point de vue de quantité de carbone à l'hectare, on arriverait à des choses assez semblables. Bon, il faut y penser. Donc il y a toute cette technologie qui est en train de se développer sur la biodiversité du CERAD qui peut être une opportunité. Ludivine serait beaucoup plus positive que moi sur le futur de cette population traditionnelle. Dernière photo, voilà, c'est donc le feu autorisé. Ça, c'est du feu autorisé. Je ne sais pas si ça se reconnaît, du feu pas autorisé. Mais là, c'est une mise à feu donc pour permettre à ce capim dorado de se développer. Et ça peut être une possibilité qu'à terme, localement, on reconnaisse ces savoirs traditionnels, qui sont en train évidemment de disparaître, mais qu'on les reconnaisse et qu'on en tire profit pour la mise en valeur des zones fragiles. Voilà. Je vous remercie. Voilà.
Merci beaucoup. Peut-être, on s'était dit que... On ferait une discussion générale à la fin, mais peut-être que s'il y a déjà quelques questions précises,
factuelles, oui.
Ouais, on peut les prendre maintenant pour revenir après la pause et après mon intervention sur des questions plus de fond. Oui, Sandrine, du coup, désolé, je fais un peu...
De fond ou de factuel, oui.
Alors, moi, je ne connais rien à ce sujet, donc j'ai une question béotienne, mais aussi une demande de complément d'information pour pouvoir bien apprécier le propos. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments de cadrage sur les populations locales, leur activité, leur mode de vie, leur mode d'organisation sociale, enfin voilà, des données qui nous renseignent. renseignerai un peu sur ces populations qui sont très centrales dans le propos, mais qui sont comme vous, vous êtes complètement imprégné du truc, qui sont assez invisibles dans la présentation. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément complémentaire, pour être à Ardennes et pour avoir entendu plusieurs présentations sur le Brésil, on est assez familier de pratiques d'organisation sociale, de lutte sociale. Et là aussi, on n'a aucune vision sur ce qui se fait localement. En revanche, on a une interpellation constante dans le propos sur la communauté internationale qui met le focus sur l'Amazonie. Et alors ok, mais la communauté internationale, si elle existe, ne met pas le focus sur cette zone-là. Mais qu'est-ce qui se fait au niveau local en termes de lutte?
Voilà. Très bien. Oui, c'est vrai que... Bon, en fait, il n'y a pas grand-chose. J'ai pas de belle carte du Brésil, il faudrait que je me trouve une belle carte. C'est une très très belle carte. Cette région centrale du Brésil, je préfère encore la carte comme ça, là. Voilà. Vous voyez, donc cette partie a été relativement peu occupée, vous voyez. La pénétration s'est faite donc surtout sur l'Amazonie, donc les gens se sont installés, là c'est l'histoire, hein, depuis 1500, sont installés là, et il y a eu le développement économique sur toute la côte et dans les régions du sud, avec les immigrants allemands, les immigrants italiens. Traditionnellement, ces périodes-là étaient des périodes un peu occupées, avec de l'élevage extensif. Il y a eu des recherches d'or, des recherches de matières précieuses, mais il n'y avait pas de village organisé, il n'y avait pas de grande ville. Ça s'est organisé à partir du moment où on a créé Brasilia. Et là, c'est une région qui a commencé à être désenclavée. Mais un peu avant, il y a eu des colonies agricoles qui ont été faites. Mais vraiment, c'est une région où il y avait très très peu de population. Bon, maintenant, c'est bien sûr différent. Il y a des villes beaucoup plus importantes. Mais dans les campagnes, on a des habitats plus ou moins dispersés et peu d'organisation identitaire, surtout. C'est ça. Ce sont des populations qui sont un peu éclatées. Dans le Cerrado, on n'est pas dans le sud du pays où là, il y a eu d'emblée avec les colons... les colons italiens et allemands qui sont arrivés, qui se sont organisés, c'est tout à fait différent. Là, c'était vraiment une population, j'en parle pas bien, moi je suis pas une anthropologue, d'historienne, mais on est toujours étonné de voir cet habitat extrêmement dispersé. Ce qui ne veut pas dire que les villes n'ont pas des millions d'habitants, ça c'est autre chose. Alors, je ne sais pas si je réponds bien. Et les questions de lutte, comme il n'y avait pas vraiment d'association et d'organisation, il n'y a vraiment pas eu de lutte. Le Cerrado a été donc découvert très tard d'un point de vue scientifique, et il a été adopté, on va dire, par les universitaires à partir des années 2000. Quand je dis adopté par les universitaires, ce sont les universitaires qui ont tiré les sonnettes d'alarme et qui ont joué auprès de l'administration pour obtenir des plans de protection. Il faut voir qu'au Brésil, c'est agréable de voir à quel point c'est pour eux, entre l'université, les populations, les ONG et le gouvernement. Il y a vraiment des idées. Donc ce sont vraiment ces universitaires qui ont réussi avec l'appui, je crois que la Banque mondiale est intervenue, donc ces plans de développement du Cerrado. Et ça a été surtout fait pour la protection de l'eau, parce que c'est un grand centre de bassin versant. Là, je suis... Voilà. Alors les luttes dans le sud, si, on va les retrouver, mais on va les retrouver auprès des Indiens du Mato Grosso du Sud, qui se font exterminer dans l'indifférence relativement générale de la communauté internationale. Mais on ne va pas retrouver de lutte pour les terres, puisque cette période aussi historique de la lutte pour les terres est en train de bouger. Il n'y a plus vraiment de lutte pour les terres. C'est quelque chose de tout à fait étonnant. Enfin, je ne sais pas si... Mais il faudrait demander vraiment à des anthropologues plus... Moi, je suis une économiste, ça. Je ne suis pas très compétente pour ça, mais c'est l'impression que j'ai. Je ne sais pas si je vous réponds.
Tu avais une question
si je vous réponds. Pour votre présentation, qui m'a apporté beaucoup et je comprends bien l'angle d'attaque de votre propos. J'ai deux questions. En fait, la première, c'est en lien avec les aires protégées. En réalité, on se rend compte que l'instrument n'est pas du tout adapté, en quelque sorte, à la problématique qui est celle, en fait, de deux angles d'attaque, la question de la biodiversité d'une part et la question des territoires de pratique dans le même pays, en fait, d'autre part. Et donc, la question, c'est est-ce que le Brésil est en train de nourrir sur la création, en fait, d'un nouvel instrument qui ferait le pont des deux, en fait. Ça, c'est... Il y a dans d'autres pays des instruments qui existent et qui font le pont entre une problématique de protection et une problématique de pratique. Et ça, c'est la première question. Et puis, la deuxième question, c'est justement la question de la terre, en fait, la lutte par rapport à la terre. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que, en réalité, cette question de gestion du foncier, et à un moment donné, on a une lutte pour la terre, à un moment donné, on ne l'a plus, est-ce que ce n'est pas cyclique en quelque sorte? Est-ce que ce n'est pas des phénomènes de cycle? Ou on aurait, comme en France, par exemple, il y a une lutte sur la terre très féroce actuellement, qu'on a perdu au Brésil, et en fait, on va peut-être la retrouver.
Peut-être.
Donc, est-ce que ce n'est pas, en fait, cette question du foncier, c'est quelque chose qui revient régulièrement dans des périodes qui sont différentes à chaque fois et qui font que le lien au foncier reste de toute façon prédominant dans la question des preuves et ça reflète un peu des contextes différents de développement, d'une phase de développement d'un pays, d'une région, dans un contexte agricole. Est-ce que ce n'est pas une hypothèse aussi qu'on peut formuler?
Oui, la lutte pour la terre, c'est qu'on a tous en tête là, ces mouvements paysans qui réclamaient de terre devant les grandes fazendas improductives. Bon, elles le sont de moins en moins, ces fazendas improductives. Et on s'aperçoit que il y a des plans de colonisation, donc on installe des plans d'assentament où on installe donc les populations. Et là, on s'aperçoit que c'est difficile d'y rester. Parce que généralement, c'est l'Institut de la réforme agraire, on les installe, mais il n'y a pas les infrastructures minimales. Hein. Elles n'ont pas le droit de revendre le lot. Alors bien sûr, c'est fait indépendamment. Et surtout, on s'aperçoit qu'actuellement, le problème de la déforestation en Amazonie provient de ces plans de colonisation. C'est-à-dire que ce sont les petits paysans qui forcément sont amenés à défricher une partie de leur terre. Et ça vient de là. C'est-à-dire qu'actuellement, si là, en Amazonie, donc vous avez vu que la déforestation a vraiment beaucoup baissé, et ça, c'est parce que les grandes entreprises ne peuvent plus, vraiment, elles sont trop sous le viseur, elles ne peuvent plus le faire. Et donc, actuellement, la déforestation en Amazonie est un problème social. C'est plus les petits agriculteurs donc, qui sont installés sans moyens, qui vont vendre le bois quoi, pour mettre en valeur leur terrain. Mais c'est très très ambigu. Il y a beaucoup d'endroits où c'est dans l'Amapa par exemple, ces plans, c'est dans Satamento où les gens partent, ils ne restent pas, les conditions sont trop trop difficiles. Et c'est vrai que la politique de transferts sociaux a favorisé cet exode. Alors la lutte pour la terre, est-ce que ça va être cyclique? J'avoue, est-ce que ça va revenir? Est-ce que ça va pas revenir? Mais c'est vrai que ces grands mouvements comme les Sans Terre ont perdu beaucoup d'importance actuellement au Brésil. Sans doute, il va y avoir une reprise si l'insertion donc dans ces fameux réseaux, s'il y a une possibilité de développer de l'agriculture biologique ou faire des expérimentations, là il y aura peut-être quelque chose, mais là aussi ce seront pas des grandes superficies. Actuellement le gros problème donc c'est la déforestation du Cerrado pour jusqu'au bout donc pour continuer soja et canne. Pour votre première question, puis aussi c'est peut-être une dépolitisation, je pensais à ça, c'est peut-être ce qu'on observe aussi en France, une dépolitisation des mouvements paysans, enfin, je sais pas, c'est peut-être cyclique, effectivement c'est quelque chose qu'il faudrait voir d'où vient la, deviennent des contestations, comment s'organisent les mouvements sociaux. Sur la première question sur la biodiversité et pratique, ben, au début, si, la création, après le sommet de Rio, après 92, de réserves de développement durable, de réserves extractivistes, c'était bien cette idée-là, c'était que les populations puissent concerner leur mode de vie et conserver la biodiversité en même temps. Mais bien sûr, ça a un peu pêché, c'est-à-dire qu'on a dit vous avez droit à des terres collectives si vous endossez l'habit du parfait petit collecteur de caoutchouc. Évidemment, le parfait petit collecteur de caoutchouc, dès qu'il a été un peu propriétaire de sa terre, il a mis des vaches partout. C'est très très délicat. Mais je pense qu'à terme, on peut arriver effectivement à des expérimentations biodiversité pratique. Mais ce qui est dommage, c'est que dans le cas précis du CERAD, les activités traditionnelles permettaient de conserver cette biodiversité avec la mise à feu. Mais tant que la mise à feu sera un tabou absolu, on n'y arrivera pas. Voilà.